La mort de Jack Hamilton. Faut que je vous dise tout de suite quelque chose. Il n'y avait personne sur Terre qui n'aimait pas mon pote Johnny Dillinger. Sauf Melvin Purvis, le type du FBI. Purvis était le bras droit de J. Edgar Hoover et il haïssait Johnny comme le poison. Sinon, tous les autres, oui. Que voulez-vous? Johnny avait l'art de se faire aimer, c'est tout. Et l'art de faire marrer les gens. Dieu finit toujours par remettre les pendules à l'heure, il disait ça souvent. Comment ne pas aimer un type qui a cette philosophie? Et les gens n'aiment pas non plus croire à la mort d'un type comme ça. Vous seriez surpris si je vous disais combien de personnes continuent à affirmer que ce n'est pas Johnny que les fédéraux ont descendu à côté du Biographer Theater le 22 juillet 1934 à Chicago. Après tout, c'était Melvin Purvis qu'on avait chargé de coincer Johnny, et en plus d'être méchant comme une teigne, Purvis était un barjot de première, du genre à vouloir pisser par une fenêtre sans penser à l'ouvrir. C'est ce que je trouve de mieux à dire de lui, voilà. Cette espèce de petite tapette qui se la jouait dandy, qu'est-ce que je la haïssais? Qu'est-ce qu'on la haïssait tous? On a échappé à Purvis et au Fed après la fusillade de Little Bohemia, Wisconsin, tous au grand complet. Le plus grand mystère de l'année est comment après ça ce gros porc a pu garder son poste. Un jour, Johnny nous a dit « Sans doute il n'y avait pas une dame pour faire d'aussi chouettes pompiers à J. Edgar. » Qu'est-ce qu'on s'est marré? D'accord, Purvis a fini par choper Johnny, mais seulement parce qu'il lui avait tendu une embuscade et qu'il lui a tiré dans le dos pendant que Johnny s'enfuyait dans une allée. Il était tombé dans les saletés et les merdes de chat et avait dit « Si c'est pas drôle, hein ?» Puis il était mort. Et pourtant, il y a encore des gens qui le croient pas. Johnny était bel homme, voilà ce qu'ils disent. On aurait presque cru une star de cinéma. Mais le type que les Feds ont descendu à côté du biographe avait un triple menton, une bille gonflée comme une saucisse trop cuite. Johnny avait à peine 31 ans, ils disent, et le gonze abattu par les Feds en avait 40 facile. En plus, et là, il se met à parler à voix basse, tout le monde savait bien que John Dillinger avait un zob de la taille d'une batte de baseball, une vraie Louisville Slugger. Or, le type tombé dans l'embuscade de Purvis n'avait rien de plus que les 15 centimètres réglementaires. Et pour finir, l'histoire de la cicatrice de sa lèvre supérieure. On la voit, claire comme le jour sur les photos de la morgue, comme celle sur laquelle un demeuré tient la tête de mon vieux pote et prend un air solennel comme pour bien faire savoir au monde que le crime ne paie pas. La cicatrice coupe même la moustache de Johnny en deux. Tout le monde sait que Johnny n'a jamais eu une pareille cicatrice, disent les gens. Regardez simplement les photos plus anciennes. Dieu sait que ce n'est pas ça qui manque. Il y a même un livre qui dit que Johnny n'est pas mort, qu'il a vécu longtemps après sa fuite avec le reste de sa bande et qu'il a passé le reste de ses jours dans une hacienda au Mexique où il a fait plaisir à on ne sait combien de señoras et de señoritas avec son outil king size. Il y est même dit que mon vieux copain est mort le 20 novembre 1963, 2 jours avant Kennedy, à l'âge avancé de 60 ans, et que ce ne sont pas les fédéraux qui ont eu sa peau, mais une bonne vieille crise cardiaque et que John Dillinger est mort dans son plumard. C'est une belle histoire, mais elle n'est pas vraie. La figure de Johnny paraissait grosse sur ses dernières photos, parce qu'il avait vraiment pris du poids. Il était du genre à se goinfrer quand il était nerveux, et après la mort de Jack Hamilton à Aurora, dans l'Illinois, il a eu l'impression qu'il était le suivant sur la liste. C'est ce qu'il a dit dans la sablière où on a amené ce pauvre vieux Jack. Quant à son outil, eh bien, je connaissais Johnny depuis la maison de redressement de Pendleton dans l'Indiana. Je l'ai vu habillé et tout nu. Et Homer Van Meter pourrait vous dire qu'il en avait une belle, mais pas une spécialement longue. Je vais vous dire qui en avait une mouse, si vous y tenez. Doc Barker. Oh, bonne mère, celle-là! Ce qui me ramène à l'histoire de la cicatrice à la lèvre supérieure de Johnny. celle qui lui coupe la moustache et qu'on voit sur les photos prises au frigo quand il est allongé sur la planche. Si on ne la voit pas dans des photos plus anciennes, c'est pour une bonne raison. Il ne l'avait qu'à la fin. Ça s'est passé à Aurora pendant que Jack Hamilton, dit le rouquin, notre vieux pote, était sur son lit de mort. Voilà ce que je voudrais vous raconter. Comment Johnny Dillinger s'est chopé cette cicatrice à la lèvre supérieure. Moi, Johnny et Red Hamilton, on a échappé à la fusillade de Little Bohemia en passant par la fenêtre de la cuisine, à l'arrière de la maison. Puis, en prenant par le bord du lac, pendant que Purvis et sa bande de crétins continuaient à larder de plomb la façade du chalet. Bon sang, j'espère que le schleu à qui appartenait la baraque était assuré. La première bagnole que nous avons trouvée appartenait à un couple de vieux du voisinage. Et elle ne voulait pas démarrer. Nous avons eu plus de chance avec la deuxième, le coupé Ford d'un charpentier, juste en haut de la route. Johnny a pris le volant et il a fait le chauffeur pendant une bonne partie du chemin de retour vers Saint-Paul. Puis, on l'a invité à laisser sa place, ce qu'il a fait bien volontiers, et c'est moi qui ai conduit. Nous avons traversé le Mississippi à environ 30 km en aval par rapport à Saint-Paul, et les flics du coin avaient beau être en alerte, à cause de ce qu'ils appelaient la bande à Dillinger, je crois qu'on aurait pu s'en tirer si Jack Hamilton n'avait pas perdu son chapeau pendant qu'on se barrait. Il jurait comme un charretier, comme toujours quand il était nerveux, et lorsqu'il trouva un chiffon qui traînait sur le siège arrière de la Ford, il en fit une sorte de foulard qu'il se mit autour de la tête dans le style Sioux. C'est ce truc qui a attiré l'œil des flics garés du côté Wisconsin du pont quand nous sommes passés devant eux, sur quoi ils sont venus y voir de plus près. Tout aurait pu se terminer à ce moment-là. Mais Johnny a toujours eu une baraka d'enfer, du moins jusqu'au Biograph. Il réussit à mettre un camion à bestiaux entre eux et nous, et les flics n'ont pas pu passer. « Écrase le champignon, Homer !» me cria Johnny. Il était à l'arrière et d'une bonne humeur exceptionnelle à l'entendre. « Plein pot !» Ce que je fis, et nous avons laissé le camion à bestiaux dans la poussière, avec les flics coincés derrière. « Salut mes lapins, on vous écrira quand on aura trouvé du boulot !» Ha ! Une fois qu'on a eu l'impression de les avoir semés pour de bon, Jack dit « Ralentis, imbécile, ce serait idiot de se faire prendre pour excès de vitesse !» J'ai donc ralenti pour rouler à 50 et pendant un quart d'heure, tout s'est très bien passé. On parlait de Little Bohemia et on se demandait si Lester, celui qu'on appelait toujours « Babyface », avait pu s'en tirer quand, tout d'un coup, il y eut des détonations de fusils et de pistolets et les balles se mirent à bondir en sifflant sur la chaussée. C'était ces foutus flics du pont. Ils nous avaient rattrapés et n'avaient pas eu de peine à arriver en douce jusqu'à moins de 100 mètres de nous. Ils étaient assez prêts pour viser les pneus. Ils n'étaient probablement pas sûrs à 100%, même à ce moment-là, qu'ils avaient bien affaire à Dillinger. Mais ils ne doutèrent pas longtemps. Johnny cassa la vitre arrière avec la crosse de son pistolet et commença à répliquer. J'écrasai à nouveau l'accélérateur et la Ford monta jusqu'à 80 à l'heure, ce qui était une sacrée vitesse à l'époque. Il n'y avait pas beaucoup de circulation, mais je doublais tout ce que je rattrapais, n'importe comment, par la droite ou par la gauche, ou en passant sur le bas-côté. Par deux fois, j'ai senti les roues côté conducteur qui dérapaient, mais on ne s'est pas renversé. Rien ne vaut une Ford quand il s'agit de prendre le large. Une fois, Johnny a même écrit à Henry Ford en personne « Avec une Ford, tous les autres morts de ma poussière », lui avait-il dit. Et sûr que, ce jour-là, on leur en a fait avaler de la poussière. Mais ça nous a coûté cher. Il y a eu des spink, spink, spink. Le pare-brise s'est fissuré et une balle, je suis à peu près sûr que c'était du calibre 45, est retombée sur le tableau de bord. On aurait dit un gros scarabée noir. Jack Hamilton était dans le siège de passager. Il avait pris sa mitraillette et vérifiait le tambour du chargeur, prêt à se pencher par la fenêtre, j'imagine, quand il y a encore eu un de ces « spink », Jack a dit « Oh bordel, je suis touché !» La balle avait dû passer par la vitre arrière cassée, mais comment avait-elle raté Johnny pour atteindre Jack? Aucune idée. « Ça va ? » criai-je. J'étais tellement courbé sur mon volant qu'on aurait dit un singe. D'ailleurs, je devais certainement conduire comme un singe. Je doublais un camion de ramassage de lait par la droite, hurlant à cet enfoiré de fils de pute de fermier en blouse blanche de se tirer de mon chemin. « Hé, Jack, ça va ?»«
Ça va »
répondit-il. Sur quoi il se mit à la fenêtre, avec sa mitraillette, sortant de la voiture presque jusqu'à la taille. Sauf qu'au début, le camion de lait gêna. Dans le rétroviseur, je voyais le chauffeur qui nous regardait les yeux exorbités sous sa petite casquette. Et lorsque je me tournais vers Jack pendant qu'il se penchait, je vis un trou aussi parfaitement rond que s'il avait été tracé au compas dans le milieu de son manteau. Il n'y avait pas de sang, juste ce petit trou noir. « T'occupe pas de Jack, occupe-toi de cette putain de mécanique !» me cria Johnny. Je fonçais. Je pris à peu près 800 mètres d'avance sur le camion de lait. Les flics étaient coincés derrière. Il y avait un rail métallique d'un côté et de l'autre, des bagnoles qui venaient en sens inverse et se traînaient. Il y eut un virage serré que je pris sur les chapeaux de roue, et pendant quelques instants, le camion de lait et les flics restèrent hors de vue. Soudain, sur la droite, apparut un chemin de terre envahi d'herbe.
« Par là !»
octa Jack, retombant dans le siège de passager. Mais je m'y étais déjà engagé. C'était une ancienne allée privée. Je parcourus environ 70 mètres, franchissant un relief de terrain. De l'autre côté, on voyait un bâtiment de ferme qui paraissait être abandonné depuis longtemps. Je coupai le moteur. Nous sommes tous descendus de voiture pour regarder autour de nous.
« S'ils viennent, ça va être leur fête, » dit Jack.
« Pas question pour moi de terminer sur la chaise électrique comme Harry Pierpont. » Mais personne ne vint et au bout de 10 minutes, nous sommes remontés dans la Ford pour regagner la route principale roulant lentement, avec prudence. C'est à ce moment-là que j'ai vu quelque chose qui ne m'a pas plu.
« Jack, tu saignes de la bouche. Fais attention, sinon tu vas en avoir plein la chemise. »
Jack s'essuya la bouche avec le pouce, regarda le sang et eut alors un sourire que je revois encore dans mes rêves. Un grand sourire terrifié à mort.
« Je me suis mordu à la joue, » dit-il. « C'est rien, tout va bien. »«
T'es sûr ?» a demandé Johnny. « T'as une drôle de voix. »«
Je suis pas encore arrivé à reprendre ma respiration. »
Il se passa de nouveau le pouce sur la bouche, et il y avait moins de sang cette fois, ce qui parut le soulager.
« Foutons le camp d'ici. »«
Retourne vers le pont, Homer, » dit Johnny. J'ai fait ce qu'il me disait. Les histoires qu'on raconte sur John Dillinger ne sont pas toutes vraies, mais en tout cas, il savait trouver le bon chemin pour rentrer chez lui, même quand il n'a plus eu de chez lui, et je lui ai toujours fait confiance. Nous roulions de nouveau à un train de sénateur parfaitement légal de 50 km à l'heure, lorsque Johnny aperçut une station-service Texaco et me dit de tourner à droite. Nous n'avons pas tardé à nous retrouver sur des routes de terre, et Johnny me disait « à droite, à gauche », alors que tous ces chemins me paraissaient identiques. Rien que deux ornières entre des champs de maïs fauchés. Ces routes étaient boueuses, et on voyait parfois des restes de neige dans les champs. De temps en temps, on tombait sur un petit bouseux qui nous regardait passer. Jack était de plus en plus silencieux. Je lui demandais comment il allait, il me répondit « ça va, ça va ».
Ouais.
Bon, faudrait peut-être qu'on aille voir d'un peu plus près quand les choses se seront calmées, dit Johnny. Il faudra faire réparer ton manteau.
Avec ce trou, on pourrait croire que quelqu'un t'a tiré dessus.
Il se mit à se marrer, moi aussi, et même Jack rigola. Johnny avait toujours le mot pour rire.
Je crois pas que c'est allé très profond,
dit Jack au moment où on atteignait la route 43.
Je ne saigne plus de la bouche, regarde.
Il se tourna pour montrer son doigt à Johnny. Il y avait juste une tache marron dessus. Mais lorsqu'il reprit place sur son siège, du sang coula de son nez et de sa bouche.
« Moi, je pense que la balle est allée assez profond, » dit Johnny.
« On s'occupera de toi. Si tu peux encore parler,
c'est que tu vas pas si mal. »« Sûr, » dit Jack. « Je vais très bien. »
Mais sa voix était plus ténue que jamais.
« Ouais, tu te portes comme un con de charme, » dis-je.
« Ah, la ferme, toi et tes fesses !» répliqua Jack. Et nous avons tous éclaté de rire. Il se moquait beaucoup de moi, mais c'était pour se marrer, c'est tout. Cela faisait à peu près 5 minutes qu'on était revenus sur la route en dur, lorsque Jack s'évanouit. Il s'écroula contre la portière, et un filet de sang coula du coin de sa bouche et de là, sur la vitre. Comme quand on écrase un moustique qui vient de casser la croûte. Du résiné partout.
Jack avait toujours son chiffon autour de la tête, mais il était de travers. Johnny le lui enleva et s'en servit pour nettoyer le sang sur sa figure. Jack marmonna quelque chose et leva les mains comme pour repousser Johnny, mais elles retombèrent sur ses genoux.
« Les flics ont dû donner l'alerte par radio, » dit Johnny. « Si on retourne à Saint-Paul, on est foutu, voilà ce que je pense. Et toi, Homer ?»«
Pareil. Qu'est-ce qui nous reste, Chicago ?»«
Ouais, sauf qu'il faut commencer par foutre ce taco en l'air. Ils doivent avoir le numéro des plaques maintenant. Et même dans le cas contraire, ils nous portent malheur. On n'aura que des merdes avec.
Et Jack ?»«
Jack va s'en tirer. » Je compris que je ne devais pas insister. Nous nous sommes arrêtés environ 2 kilomètres plus loin, et Johnny a tiré sur l'un des pneus avant du taco, porte-malheur, pendant que Jack restait appuyé à la carrosserie, pâle, l'air malade. Quand nous avions besoin d'une voiture, c'était toujours à moi qu'il revenait d'en arrêter une.
Des gens qui ne s'arrêteraient pour aucun de nous s'arrêteront pour toi, avait remarqué une fois Johnny.
Je me demande bien pourquoi.
C'était Henri Pierreponte qui lui avait répondu. À l'époque, nous étions encore la bande à Pierreponte, et pas la bande à Dillinger. Parce qu'il a une vraie tête de Homer, avait-il dit. Il n'y a jamais personne qui a eu une tête de Homer comme Homer Van Meter.
Celle-là nous avait tous bien fait rire.
Mais aujourd'hui, c'était vraiment important. On pouvait dire que c'était une question de vie ou de mort.
3 ou 4 voitures passèrent. Je faisais semblant de m'occuper du pneu crevé. Une camionnette de fermier se présenta, mais elle était trop lente et brinque-ballante. Sans compter qu'il y avait des types à l'arrière. Le conducteur ralentit et dit « Un coup de main, amigo !»«
Ça va, merci, » répondis-je. « Je suis juste en train de me creuser l'appétit avant le déjeuner. »
Il rit et repartit. Les types à l'arrière me saluèrent. Ensuite, c'est une Ford qui s'est pointée. Pas d'autres bagnoles en vue. J'agitai les bras pour la faire arrêter, me plaçant de manière à ce qu'ils voient bien le pneu crevé. Et je leur souris, mon grand sourire qui dit que je suis rien qu'un pauvre Homer inoffensif échoué au bord de la route. Ça a marché. La Ford s'arrêta. Dedans, il y avait un type, une jeune femme et un bon gros bébé. Une petite famille.
« On dirait bien que vous avez crevé, l'ami, » dit l'homme.
Il portait un costume et un manteau, impeccables tous les deux, mais pas ce qu'on pourrait appeler du premier choix.
« Je peux pas dire si c'est grave, » répondis-je, « vu que c'est plat seulement en bas. »
On était encore en train de rire de celle-là lorsque Johnny et Jack sont sortis d'entre les arbres, l'arme à la main.
« Ne bougez pas, c'est tout, » dit Johnny, « et personne n'aura rien. »
L'homme regarda Jack, regarda Johnny, regarda à nouveau Jack, puis ses yeux revinrent sur Johnny et il resta bouche bée.
« J'avais vu ça. » 100 fois, mais ça me faisait toujours autant bicher.
Vous êtes Dillinger ? S'exclama l'homme, levant les mains en l'air.
Ravi de faire votre connaissance, répondit Johnny, prenant l'une des mains de l'homme. Si vous baissiez vos paluches, hein ?
Juste à ce moment-là, 2 ou 3 autres voitures passèrent, genre Pecnot allant en ville, assis, droits comme des manches à balai dans leurs vieux tacos boueux. On avait simplement l'air d'un gentil groupe, peinard, arrêté au bord de la route pour une petite séance de changement de pneus.
Jack, pendant ce temps, était passé du côté conducteur de la nouvelle Ford, avait coupé le contact et pris la clé. Le ciel était blanc ce jour-là, comme s'il allait pleuvoir ou neiger. Mais la figure de Jack était encore plus blanche.
« Comment vous vous appelez, ma'am ?» demanda Jack à la femme. Elle portait un long manteau gris et un mignon chapeau style marin.
« Dilly Francis, » répondit-elle.
Elle ouvrait de grands yeux aussi sombres que des prunes.
« Et voici Roy. C'est mon mari. Vous allez nous tuer ?»
Johnny la regarda, la mine sévère.
« Nous sommes la bande à Dillinger et nous n'avons jamais tué personne. »
Johnny donnait toujours cette précision. Ça faisait rire Pierrepont. Il lui demandait pourquoi il gaspillait sa salive, mais je crois que Johnny n'avait pas tort de le dire. C'est une des raisons pour lesquelles on se rappellera de lui longtemps après qu'on aura oublié ce petit pédé en chapeau de paille.
« Tout juste, » ajouta Jack, « on dévalise les banques, même si c'est même pas la moitié de ce qu'il raconte. Et qui est ce charmant jeune homme ?»
Il chatouilla le marmot sous le menton. Il était gros, le bonhomme. On aurait dit W.C. Fields.
« Il s'appelle Buster, » dit Dilly Francis.
« C'est un sacré beau bébé, non ?»
Jack sourit. Il y avait du sang sur ses dents.
« Quel âge a-t-il ? 3 ans, à peu près ?»«
À peine 2 et demi, » répondit fièrement Mrs. Francis.
« Incroyable !»«
Il est grand, pour son âge, c'est vrai. Vous allez bien, monsieur ? Je vous trouve affreusement pâle. Et vous avez du sang sur vos... »
Johnny intervint à ce moment-là. « Jack, pourrais-tu aller planquer celle-là entre les arbres ?» lui demanda-t-il avec un geste vers la vieille Ford du charpentier.
« Bien sûr. »«
Même avec son pneu à plat ?»«
Tu parles. C'est juste que j'ai terriblement soif. Vous n'auriez pas quelque chose à boire, ma'am Mrs. Francis ?»
Elle se tourna et se pencha, pas facile avec ce bambin gros comme un poney dans les bras, et elle alla pêcher une thermos à l'arrière. 2 autres voitures passèrent à petite vitesse. Les gens nous firent bonjour. On leur fit bonjour. Je souriais toujours de mon grand sourire, essayant d'avoir l'air aussi homère que possible. J'étais inquiet pour Jack. Et je me demandais comment il pouvait seulement tenir debout et encore plus porter la thermos à sa bouche et en descendre le contenu. « Du thé glacé, » lui dit-elle, mais il parut ne pas l'avoir entendu. Quand il lui rendit la thermos, des larmes roulaient le long de ses joues. Il la remercia et elle lui demanda encore une fois s'il allait bien.
« Ça va mieux, maintenant, »
répondit Jack. Il monta dans la Ford de malheur et la fit rouler jusqu'au milieu des buissons. La bagnole cahotait sur le pneu que Johnny avait crevé.
« T'aurais pas pu crever un pneu arrière, espèce d'idiot ?»
Jack paraissait en colère et hors d'haleine. Le vieux taco fut finalement hors de vue et il revint, marchant lentement et regardant à ses pieds comme un vieillard qui s'avancerait sur de la glace.
« Très bien, »
dit Johnny. Il y avait une patte de lapin sur le porte-clé de Mr. Francis et il la tripotait de telle manière que je compris que Mr. Francis n'allait jamais revoir sa Ford.
« Bon, maintenant qu'on est tous amis, nous allons partir faire un petit tour. »
Johnny prit le volant. Jack s'installa à l'avant, à côté de lui. Je me glissai à l'arrière avec les Francis et m'efforçai d'obtenir un sourire du porcelet.
« Dès qu'on arrive dans un patelin, » dit Johnny à l'adresse des Francis, « on vous fera descendre avec assez d'argent pour prendre le bus pour là où vous allez. Nous, on gardera la voiture. On en prendra soin et, si personne ne la canarde, on vous la rendra comme neuve sans un trou de balle. On vous téléphonera pour vous dire où elle est. »
« Nous n'avons pas encore le téléphone, » dit Dilly.
Elle avait pris un ton géniard, le genre de femme qui a besoin de recevoir une petite correction tous les 15 jours pour garder les nénés au garde-à-vous.
« On est sur la liste, mais ces gens du téléphone sont plus mollassons que de la mélasse tiède. »
« Dans ce cas, » dit Johnny avec entrain, nullement déconcerté, « on téléphonera aux flics et ils prendront contact avec vous, mais si vous l'ouvrez, comptez pas la revoir en état de marche. »
Mr. Francis hochait la tête comme s'il croyait tout ça, et probable qu'il le croyait en plus. C'était la bande à Dillinger, après tout. Johnny s'arrêta dans une station Texaco, fit le plein et acheta des sodas pour tout le monde. Jack descendit sa bouteille de jus de raisin comme s'il était mort de soif en plein désert. Mais la femme ne voulut pas laisser Mr. Porcelet boire le sien. Même pas une gorgée. Le gosse tendait les mains vers la bouteille et braillait.
« Pas question qu'ils boivent ça avant le déjeuner, » dit la femme à Johnny. « Vous n'y pensez pas !»
Jack appuyait sa tête contre la vitre de sa portière, les yeux fermés. Je croyais qu'il s'était de nouveau évanoui, mais il dit
« Faites taire ce morveux, ma'am, ou c'est moi qui m'en occupe. »
« Je crois que vous oubliez que vous êtes dans notre voiture, » se rebiffa Mrs. Francis.
« Donne-lui son soda, petite garce, » dit Johnny.
Il souriait toujours, mais... de son autre sourire à présent. Elle le regarda et perdit toutes ses couleurs. Et c'est ainsi que Mr. Porcelet obtint son nihai, déjeuner ou pas. 30 kilomètres plus loin, on les débarquait dans un patelin quelconque et on continuait en direction de Chicago.
Un type qui épouse une fille pareille mérite tout ce qui lui arrive, observa Johnny. Et il va lui en arriver.
« Elle va appeler les flics, » dit Jack sans ouvrir les yeux.
« Jamais de la vie, » répondit Johnny, toujours aussi confiant. « Ça lui ferait trop mal de dépenser 5 cents. »
Et il avait raison.
Nous n'avons croisé que deux antiques tacos avant d'arriver à Chi, et aucun des deux ne fit la moindre attention à nous, ne ralentissant même pas. La baraka de Johnny, ça. Quant à Jack, il suffisait de le regarder pour comprendre que ses réserves de chance étaient au plus bas. Le temps d'atteindre le centre, il délirait et parlait à sa mère. « Homer, » dit Johnny, ouvrant grand les yeux avec ce regard qui ne manquait jamais de me titiller, « comme une fille qui flirte. « Quoi ? » demandai-je, lui rendant son coup d'œil joyeux. « On n'a nulle part où aller. C'est encore pire qu'à Saint-Paul. »
« Si, au Murphy's, » intervint Jack, toujours sans ouvrir les yeux. « Je boirais bien une bière bien fraîche. J'ai soif. »
« Le Murphy's, » dit Johnny.
« Ouais.
C'est pas une mauvaise idée. » Le Murphy's était un bar irlandais du South Side. Sieur de bois sur le plancher, buffet chaud, deux barman, trois videurs, des filles accueillantes au bar et une chambre au premier où on pouvait les emmener. Et d'autres chambres à l'arrière, où des gens se rencontraient parfois ou bien se mettaient au frais pendant un jour ou deux. Nous connaissions quatre endroits semblables à Saint-Paul, mais seulement un ou deux à Chi. Je garais la Ford des Francis dans l'allée. Johnny était à l'arrière avec notre ami en plein délire. Nous n'étions pas encore prêts à parler de notre ami mourant, lui tenant la tête contre son manteau. « Va chercher Brian Mooney au bar, » me dit Johnny. « Et s'il n'est pas là ?»« Alors, je sais pas. »«
Harry !» cria Jack, pensant sans doute à Harry Pierpont. « Cette pute que tu m'as collée dans les bras m'a refilé la ch'touille. »«
Vas-y !» me dit Johnny, caressant les cheveux de Jack comme l'aurait fait une mère. Bon, Brian Mooney était là, toujours la baraka de Johnny, et il nous loua une chambre. $200 la nuit, ce qui n'était pas donné pour une tôle avec vue sur la contre-allée et chiotte au bout du couloir. « Les gars, vous êtes pire que de la dynamite, » nous dit Brian. « Mickey McClure vous aurait renvoyé direct dans la rue. On ne parle que de Little Bohemia dans les journaux et à la radio. » Jack s'assit sur le lit de camp qui était dans un coin, alluma une cigarette et prit une gorgée de sa bière pression. La bière parut lui rendre la vie. Il était presque redevenu lui-même.
« Lester s'en est tiré ? » demanda-t-il à Mooney.
Je le regardai pendant qu'il parlait et vis alors une chose terrible. Quand il tirait une bouffée sur sa Lucky, un petit nuage sortait par le trou de son manteau, dans son dos, comme un signal de fumée.
« Tu veux parler de Babyface ?» demanda Mooney.
« Il vaudrait mieux que tu l'appelles pas comme ça devant moi, » dit Johnny souriant. Il était content de constater que Jack allait mieux, mais il n'avait pas vu le petit nuage de fumée sortant de son dos. J'aurais bien aimé ne pas l'avoir vu, moi non plus.
« Il a mitraillé les feds et il s'est tiré, » dit Mooney. « Au moins un des feds est mort, peut-être deux. De toute façon, ça ne fait que rendre les choses encore pires. Vous pouvez passer la nuit ici, mais il faudra avoir décampé demain après-midi. »
Il sortit. Johnny attendit quelques secondes, puis tira la langue en direction de la porte comme un gosse. Je me mis à rire. Johnny me faisait toujours marrer. Jack essaya aussi de rire, mais s'arrêta bien vite. Ça lui faisait trop mal.
« C'est le moment de te faire sortir de ce manteau, mon vieux, et de voir si c'est méchant ou pas, » dit Johnny.
Ça nous prit 5 minutes. Le temps qu'on en soit à son tricot de peau, on était en sueur, tous les trois. 4 ou 5 fois, je dus lui mettre la main sur la bouche pour étouffer ses gémissements. J'avais du sang partout sur les manches. Il n'y avait rien de plus qu'une auréole rosâtre sur la doublure de son manteau, mais sa chemise avait une grande tache rouge et son tricot de peau était complètement imbibé de sang. Juste en dessous de son omoplate gauche, sur le côté, il y avait une bosse, avec un trou dans le milieu, comme un petit volcan.
« Arrêtez !» haleta Jack, les larmes aux yeux. « Je vous en prie, arrêtez !»«
C'est fini !»« C'est fini !» dit Johnny, lui passant une fois de plus la main dans les cheveux.
« Tu peux t'allonger à présent.
Dors un peu !»
« T'as besoin de te reposer. »« Je peux pas. Ça me fait trop mal. Bon Dieu, si vous saviez comme ça me fait mal. Je voudrais une autre bière. J'ai soif. Et ne mets pas autant de sel dedans cette fois. Où est Harry ? Où est passé Charlie ?»
Harry Pierpont et Charlie McClay, sans doute. Charlie était le caïd qui avait dessalé Harry et Jack quand ils n'étaient encore que des morveux.
« Et merde, ça recommence, » dit Johnny. « Il a besoin d'un toubib, Homer, et c'est à toi de te débrouiller pour en dégoter un. »«
Bordel, Johnny, je suis pas chez moi dans cette ville.
Fais rien. Si je sors, tu sais ce qui va arriver. Je vais te noter quelques noms avec les adresses. »
En fin de compte, il n'y eut qu'un nom et qu'une adresse, et lorsque je m'y pointais, ce fut pour rien. Le toubib, un fourgueur de pilules qui avait pour mission dans sa vie professionnelle de pratiquer des avortements et de procurer l'acide pour faire disparaître les empreintes digitales, s'était shooté à mort avec son propre laudanum 2 mois auparavant. Nous sommes restés 5 jours dans cette tôle minable chez Murphy. Mickey McClure essaya bien de nous virer, mais Johnny lui fit son grand numéro de charme. Quand il mettait la gomme, il était à peu près impossible de lui dire non, sans compter qu'on payait. La 5e nuit, la location atteignait $400 et il nous était interdit de montrer ne serait-ce que le bout de notre nez au bar de peur que quelqu'un ne nous reconnaisse. Ce qui n'arriva pas et, pour autant que je sache, les flics n'ont jamais découvert où nous nous étions planqués pendant ces 5 jours de la fin avril. Je me demande combien McClure s'est fait dans cette affaire. Plus de $1000 en tout cas. On avait braqué des banques pour moins que ça. Je finis par m'adresser à une demi-douzaine de faiseurs d'anges et de remanieurs de portraits. Pas un seul ne voulut venir jeter un coup d'œil à Jack. « Trop risqué, » disait-il. Ce fut le pire moment et, même aujourd'hui, j'ai horreur d'y penser. Disons simplement que Johnny et moi, nous avons compris ce que Jésus avait ressenti lorsque son copain Pierre l'avait renié 3 fois avant que le coq chante. Jack reprenait parfois conscience pendant un moment, mais la plupart du temps, il délirait. Il parlait de sa mère, de Harry Pierpont et de Booby Clark, un PD célèbre de Michigan City que nous avions tous connu.
« Bobby a essayé de m'embrasser !»
se mit à répéter Jack un soir, à répéter sans fin. J'ai bien cru que j'allais devenir cinglé. Ça n'avait pas l'air d'énerver Johnny, pourtant. Il restait simplement assis à côté du lit de camp de Jack et lui caressait les cheveux. Il avait découpé un carré de tissu dans le tricot de peau de Jack autour de la plaie et il n'arrêtait pas de le badigeonner de mercurochrome. Mais la peau avait déjà pris une inquiétante couleur d'un vert grisâtre et une odeur nauséabonde sortait du trou. Une seule bouffée vous faisait monter les larmes aux yeux.
« C'est la gangrène !» nous dit Mickey McClure un soir qu'il était venu chercher son loyer. « Il est foutu !»«
Il est pas foutu !» protesta Johnny.
Mickey se pencha, ses mains grasses sur ses genoux gras. Il sentit la laine de Jack, comme un flic celle d'un poivreau, puis se redressa.
« Vous avez intérêt à trouver un toubib et fissa. Une plaie qui schlingue, c'est déjà mauvais signe. Mais la laine qui pue... »
L'Irlandais secoua la tête et quitta la pièce. « Qu'il aille se faire foutre ?» dit Johnny à Jack, sans cesser de lui caresser la tête.
« Qu'est-ce qu'il en sait, ce taré ?»
Mais Jack ne répondit rien. Il dormait. Quelques heures plus tard, alors que Johnny et moi essayions de dormir aussi, Jack se retrouva sur le bord de son lit de camp, délirant à propos de Henry Claudie, un maton de Michigan City. Nous l'appelions « Bon Dieu Claudie », parce qu'il disait tout le temps « Bon Dieu, je ferai ceci, bon Dieu, tu feras cela ». Jack hurlait qu'il allait tuer Claudie s'il ne nous laissait pas sortir. Il y eut des coups de poing contre la cloison et on nous cria de le faire taire. Johnny alla s'asseoir à côté de lui, lui parla et réussit à le calmer. Quelques instants après, il m'appelait.
« Homer !»«
Oui, Jack ?»«
Tu veux pas me faire le coup des mouches »
demanda-t-il. J'étais étonné qu'il s'en souvienne. « Eh bien, dis-je, je ne demanderai pas mieux, mais il n'y a pas une mouche dans le coin. Dans ce pays, c'est pas encore la saison. » D'une voix basse et enrouée, Jack se mit à chantonner.
« Il y a peut-être des mouches sur vous, les types, mais il n'y en a pas sur moi. Pas vrai, Chouma ?»
Qui était ce Chouma? Je n'en avais aucune idée, mais je hochais la tête et lui tapotais l'épaule.
« Tout juste, Jack !»
Il avait de grands cernes mauves sous les yeux et de la bave séchée sur les lèvres. Il perdait déjà du poids. Je sentais son odeur aussi. L'odeur de la pisse, ce qui n'était pas bien grave, et celle de la gangrène, qu'il était beaucoup plus. Pas un seul instant, Johnny ne laissa voir qu'il sentait la moindre mauvaise odeur.
« Marche sur les mains pour moi, John, » dit Jack, « comme tu faisais avant. »
« Dans une minute, » lui répondit Johnny.
Il lui prépara un verre d'eau.
« Commence par boire ça. Faut humecter le sifflet. Après, on va voir si je suis encore capable de traverser la pièce à l'envers. Tu te rappelles, la fois où j'ai traversé toute la fabrique de chemises sur les mains et qu'ils m'ont mis au trou quand je suis arrivé au portail ?»«
Je m'en souviens, » dit Jack.
Mais Johnny ne marcha pas sur les mains ce soir-là. Le temps de porter le verre aux lèvres de Jack, le pauvre vieux s'était rendormi, la tête sur l'épaule de Johnny.
« Il va mourir, » dis-je.
« Mais non, » répondit Johnny.
Le lendemain matin, je demandai à Johnny ce que nous allions faire, ce que nous pouvions faire.
McClure m'a donné un autre nom, Joe Moran.
D'après McClure, c'est lui qui a servi d'intermédiaire dans l'affaire du kidnapping Bremer.
S'il peut nous arranger notre Jack, ça vaut bien $1,000 pour moi.
« Il m'en reste 600, » dis-je.
Et je les lui ai donnés, mais pas pour Jack Hamilton. Ce n'était plus d'un médecin dont Jack avait besoin, mais d'un prêtre.
Je l'ai fait pour John Dillinger.
Merci, Homer. Je vais en avoir pour une heure. En attendant, occupe-toi du bébé.
Johnny, cependant, paraissait pessimiste. Il savait que si Moran refusait de nous aider, il faudrait quitter la ville, ce qui signifierait retourner à Saint-Paul et essayer là-bas. Et nous savions ce que ça voulait dire, de repartir pour là-bas dans une Ford volée. C'était le printemps de 1934, et tous les trois, Jack, moi, mais surtout Johnny, étions en bonne place sur la liste des ennemis publics de J. Edgar Hoover.
« Eh bien, bonne chance, » dis-je. « À bientôt dans les avis de décès. »
Il sortit. J'étais là à traîner et je commençais à en avoir sérieusement par-dessus la tête de cette turne. J'avais l'impression d'être de retour à Michigan City, mais en pire. Parce que lorsqu'on était en tôle, il ne pouvait rien vous arriver de pire. Alors qu'ici, planqué dans la piaule de derrière chez Murphy, les choses pouvaient encore empirer. Jack marmonna, puis sombra à nouveau. Il y avait une chaise avec un coussin dessus au pied du lit de camp. Je pris le coussin et allai m'asseoir à côté de Jack. Je me disais que ça ne prendrait pas longtemps et que, quand Johnny reviendrait, je n'aurais qu'à lui dire que Jack avait pris une dernière grande bouffée d'air et avalé son bulletin de naissance, comme ça. Le coussin aurait retrouvé sa chaise. En fait, ce serait pure charité pour Johnny et pour Jack aussi.
« Je te vois, Shuma, »
dit soudain Jack. « Je peux vous l'avouer, ça m'a fichu une sacrée frousse. « Jack, » dis-je, mettant les coudes sur le coussin, « comment ça va ?» Ses paupières se refermèrent lentement.
« Fais-moi le tour avec les mouches. »
Puis il se rendormit. Mais il s'était réveillé au bon moment. Sinon, c'est un cadavre qu'aurait trouvé Johnny sur le lit de camp à son retour. Quand Johnny revint, c'est tout juste s'il n'enfonça pas la porte. Je tirai mon revolver. Il le vit et éclata de rire.
« Range ton balance prune, mon gars, et fous tes emmerdes dans ta poche avec ton mouchoir par-dessus.
Qu'est-ce qui se passe ?»«
On se tire d'ici, voilà ce qui se passe. »
On aurait dit qu'il avait rajeuni de 5 ans.
« Il était temps, pas vrai ?»«
Ouais. »
« Il n'a pas été trop mal ?»«
Non. »
Sur le coussin, qui avait retrouvé sa place sur la chaise, on lisait brodé à la main « Souvenir de Chicago ».
« Aucun changement ?»«
Aucun. On va où ?»«
À Aurora, » dit Johnny, un patelin paumé dans le nord de l'État, là où Volney Davis et sa petite amie sont planqués.
Il se pencha sur le lit de camp. Déjà clairsemé, les cheveux roux de Jack avaient commencé à tomber. Il y en avait sur l'oreiller et on voyait le sommet de son crâne, blanc comme neige.
Hé, Jack, t'as entendu ça ? Cria Johnny. On est dans la merde en ce moment, mais on va bientôt être peinards. Tu piges ça ?
Marche sur les mains, comme Johnny Dillinger,
dit Jack sans ouvrir les yeux. Johnny n'en continua pas moins le sourire. Il m'adressa un clin d'œil.
Il comprend, dit-il. C'est juste qu'il n'est pas réveillé.
Tu piges ?
Ouais. Ouais,